Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
La caravane amoureuse. Le concept fut créé par Marc Vella. Marc Vella qui en 30 ans a parcouru avec son piano à queue plus de 200 000 km sur les routes et les chemins pour célébrer l'homme dans toute sa beauté. Dans ses aventures en humanité, Marc a créé le concept de la caravane amoureuse pour partager ses fabuleuses rencontres d'ailleurs. Dans cette deuxième partie de l'émission, Marc nous raconte l'histoire de ses caravanes amoureuses. Avec ton piano, et donc c'est là qu'est né le concept de la caravane amoureuse. Donc explique-nous ce concept, qu'est-ce qu'une caravane amoureuse ?
Alors la caravane amoureuse, elle est née, en fait, pas tout à fait comme ça. C'est que pendant toutes ces années, quand je partais, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Vraiment, ça a été beaucoup de... Donc, au milieu classique, j'étais un iconoclaste, un farfelu, un excentrique. Bref, j'avais le droit à tous les qualificatifs. Mais bon, j'étais habitué depuis ma naissance, même avant. Ça ne changeait pas. Et puis après, quand je rentrais de mes voyages, les gens disaient « Quoi, t'as joué au Sénégal ? Oh, Guinée, mais ils ne sont pas dans les arbres, ces gens. Ils comprennent quelque chose. » Ou alors, quand je revenais du Maghreb, « Mais ils vont te voler ton piano, puis ils vont t'égorger, puis voilà, puis ça ne sert à rien. Ils comprennent rien, ces gens-là. » Enfin, voilà, c'était un peu « Quoi, t'as joué dans le Sahara ? Ah, tu joues dans le désert ? C'est parce que t'en as marre de jouer dans les salles vides. C'est pour ça que tu joues dans le désert. » Enfin, voilà, c'était un peu les propos que j'avais. Ça a duré, ça a presque 20 ans. Et puis, je remporte le premier prix de composition à Rome, au team. Donc ça scie un peu les choses. Une équipe de cinéma m'accompagne en 2002 pour faire le film, l'aventure qui était celle-ci, de refaire le trajet du rallye Paris-Dakar, mais en piano. C'était via le conseil général d'Aquitaine. Voilà, et on fait ce voyage avec un autobus, juste incroyable. Et ce film, en fait, réalisé par Arnaud Petitet, remporte un tel succès vis-à-vis du grand public, dans des tas de forums, congrès, enfin, il fait tous les festivals, le Grand Bivouac, ABM, Planète Couleur, etc., la Toison, Toison d'Or de Dijon, etc. Et il remporte les premiers prix partout, le Ador des Angles, etc., le Festival de l'Aventure. Et là, le grand public comprend, finalement, parce qu'on voit ce piano dans les villages, la réaction des gens, l'impact, ce que ça déclenche. Et du coup, c'est le public, les gens venaient me voir à la fin, me disaient « Oh, c'est génial, je pourrais venir avec vous, me cacher dans votre piano, c'est tellement génial de rencontrer l'humanité comme ça ». Et c'était récurrent. Voilà, les gens, chaque fois, disaient « Je peux venir avec vous ». Et à force, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Je me suis dit « Pourquoi pas exaucer cette demande ?» Donc, je suis allé voir celui qui nous avait prêté le bus, le Monsieur Père. Voilà, un patron, un PDG, costume gris. Voilà, un gars assez, assez fort comme ça, derrière son bureau. Et je lui dis « Voilà, je voudrais envahir le monde amoureusement avec des autobus, dire « Je t'aime », faire des invasions amoureuses ». Ça s'appellerait la caravane amour. Je vois le gars qui ouvre ses grands yeux qui me dit « Il doit être fou, celui-là. » Et il me dit « T'en veux combien de bus ?» Je dis « 3. » Et là, il me dit « Je te les donne. » Alors là, j'étais sidéré. Parce que moi, je pensais que j'allais devoir batailler, convaincre. Il me dit « Ton projet, il est génial. Ça sauvera pas le monde, mais ça lui fera du bien. » Et voilà. Et je me suis retrouvé avec 3 autobus. Je donne un concert. Et là, vient un gars qui vient me voir et me dit « Je raconte ça au public, que j'ai des bus, tout ça. » Puis le gars vient me voir, il me dit « Moi, ma passion, c'est de transformer les bus en camping-car. » C'était 15 jours après. Et voilà. Et pendant, donc, j'ai financé ça. Et il a fait ça bénévolement. J'ai juste acheté les matériaux. Et on a transformé ces 3 bus en camping-car géants. Là-dessus, je me fais inviter par Canal+, parce que je donnais un concert sur Bordeaux. Il y avait Alain Juppé qui était présent à cette émission. Et je lance le concept de la caravane amoureuse, au grand public. Et ça a eu un impact incroyable. Enfin, vraiment, on a reçu des tas à l'époque de mails, de gens qui voulaient partir, dire je t'aime au monde. On recevait des gens qui avaient envie de vivre ce projet. Voilà, c'est comme ça que c'est né.
J'aime quand tu parles de cette notion d'invasion, invasion amoureuse. Développe un petit peu la caravane en termes d'invasion amoureuse.
En fait, moi, j'aime bien reprendre les termes guerriers, en fait, les thèmes de l'histoire. C'est que finalement, ça, l'homme a toujours, dans son esprit, c'est dans sa nature. Il aime conquérir, il aime séduire, il aime envahir. C'est dans sa nature, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et je pense que cette nature, je crois que voilà, elle est là. Il faut donc essayer de l'amener vers quelque chose de plus lumineux. Après tout, c'est là, faisons avec. Faisons avec. Il n'y a pas à lutter contre notre nature, il y a à l'accueillir et à la transformer pour lui donner du sens et surtout qu'elle soit du coup positive. Voilà, et qu'elle soit du coup constructive, voilà, pour à la fois pour la personne elle-même et pour tout son entourage, à la fois sur le plan humain et puis sur le plan environnemental. Donc du coup, le concept de la caravane amoureuse à l'époque, c'était conquérir amoureusement un pays en adoptant la stratégie de la guérilla des bisous. C'était un petit peu ça le concept, la guérilla des bisous. Alors évidemment, ça faisait sourire. Et ça donnait à ce projet un aspect très à la fois loufoque, bizarre, utopique, et qui finalement, aux yeux des gens, était à la fois utopique, oui, donc insensé, absurde, iconoclaste. Finalement, on s'est tenu à ça. Et avec le temps, curieusement, et petit à petit, le projet a pris forme, c'est comment dire, renforcé dans sa, il a évolué. Et je me suis rendu compte très vite qu'on avait une responsabilité. Voilà, c'est qu'effectivement, on allait envahir un pays amoureusement. Ça, c'est une chose. C'était magnifique. Voilà, on allait non pas dominer un pays, on n'allait pas conquérir un pays, mais on allait le chérir. Ce qui est très différent, il n'y a rien à conquérir, mais tout à chérir. Et surtout, on allait non pas convaincre ou dominer, on allait pour mettre en avant la beauté des autres. Voilà, ça c'était pour moi quelque chose de fondamental. On n'était pas là pour nous montrer aux autres ce que nous sommes, montrer aux autres qu'on est meilleur, qu'on est les plus forts, qu'on est les plus... Mais c'était juste pour les mettre à l'honneur. Waouh ! Mettre à l'honneur. Et ça, dans l'histoire, en fait, je crois que ça ne s'est jamais produit. Voilà, dans l'histoire. C'est ça le drame humain, le grand malheur humain. C'est que quand on est allé voir les autres, ça a été pour les écraser, ça a été pour les piétiner, pour les rendre esclaves, les massacrer. Enfin, je veux dire, mais c'est...
Thank you.
Alors pourquoi? Pourquoi cette envie de conquérir, de dominer, ce besoin de pouvoir que peut avoir l'homme, certains hommes?
Oui, on peut dire certains hommes. Ben, oui, je crois que c'est de la prédation et c'est lié à une immense peur du manque, de ne pas avoir. Donc il faut prendre absolument le pouvoir. C'est ça, le fond du fond, la grande blessure béante, voilà, qu'il porte et qui fait qu'à un moment donné, c'est plus fort qu'eux. Hein, et ils ont ce besoin de prendre et d'écraser, et de dominer.
La caravane amoureuse a une charte. Est-ce que tu peux m'énumérer quelques points et me les définir?
Bah, pour moi, c'est clair que c'est surtout le respect de l'autre, quel qu'il soit, là où il en est. Ça, c'est fondamental. Je pense que ça, c'est vraiment l'une des clés. C'est que quand on arrive quelque part, on n'arrive pas en pays conquis et on n'impose pas notre réalité ou nos points de vue ou nos envies. Voilà, on propose. D'ailleurs, c'est dans les cinq, pour moi, dans les cinq points, il y a ces données sans envahir, c'est prendre la place, mais être présent, mais tout en laissant la place aux autres, c'est du bout des doigts et des lèvres tisser des liens, mais des liens qui délient. Voilà, c'est vraiment cette idée proposer sans imposer. Voilà, c'est toute cette délicatesse qui me semble fondamentale, vraiment fondamentale. Et dont je m'honore, c'est-à-dire vraiment, il y a parfois dans la caravane amoureuse, il y a eu des fois où on n'a pas pu réaliser des objectifs, et parce que les gens ne voulaient pas, parce que eh bien il faut respecter, c'est tout. Il faut arrêter d'être dans ce rapport finalement de force, voilà, où on veut imposer à tout prix ce que l'on veut. Voilà, je te respecte, je ne suis pas d'accord, mais sache que je ne suis pas d'accord, mais je te respecte. Et on met en avant l'autre, je dirais, de là où il en est, et moi je reste convaincu que c'est ça qui, à un moment donné, dans cette douceur relationnelle, permet toujours de garder finalement contact, évite le conflit, et qui souvent, finalement, crée un mur, hein, et où il faut beaucoup de temps après pour que ce mur se défasse. Et donc voilà, moi, je suis pour vraiment l'idée de jamais heurter quoi que ce soit. Voilà, on propose. Autrement, c'est toujours pareil. C'est comme un viol, voilà. Et puis, on ne sait jamais après la conséquence que ça peut avoir. Donc, c'est toujours ce travail de la délicatesse, la présence, voilà. Voilà, les gens savent ce qu'on propose, dans le respect de ces réalités, à la fois la mienne et celle des autres. Voilà, c'est pas moi d'abord. C'est pas moi d'abord. Voilà, ça, c'est toute la sagesse du caravanier. Elle est là. Voilà, je suis au service d'un idéal, d'un rêve, qui s'appelle l'amour et la reconnaissance de l'autre, quel qu'il soit. Et c'est aussi la reconnaissance de l'autre là où il en est.
Qui sont les amoureux?
Des gens, les monsieur et madame tout le monde. Les amoureux sont des monsieur et madame tout le monde, des gens, des anonymes, extraordinaires, des gens dont on ne parlera jamais, qui ont, voilà, les gens de la vie, de tous les jours.
Quels sont ces amoureux? Quelles sont les valeurs qu'ils portent et qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre la caravane?
Moi, ce qui m'impressionne dans ces caravaniers, ces gens, ces monsieur et madame tout le monde, c'est effectivement ils doivent remplir un questionnaire qui est en ligne sur le site internet. Quand on reçoit leur questionnaire, quand on voit leurs réponses, c'est magnifique. Ce qu'ils sont capables d'écrire, ce qu'ils sont capables de dire, c'est vraiment... Il y a des fois, c'est des propos, moi, je dirais, quasiment christique, je mets entre guillemets, parce que bon, c'est fort. Tu pleures, je veux dire, les gens écrivent leur envie du monde et des autres, leur envie de dire je t'aime, leur envie de donner de l'amour à ce monde. Et la caravane amoureuse leur permet ça, leur permet ce possible. Et c'est magnifique ce que les gens ont, à quel point les gens ont envie d'offrir. Et moi, je vois les caravaniers, là, dans cette dernière caravane, ils ont été remarquables. Ça a été, parce que 5 semaines, c'est quand même long. Ils ont su rester pendant 5 semaines, justement, dans cette équanimité, dans cette constance. Voilà, de l'accueil, de la bienveillance. Pratiquement, il n'y a pas eu de heurts dans cette caravane.
Est-ce que tu peux nous raconter cette caravane, l'itinéraire, ce qu'on y a fait ?
Eh bien, donc cette caravane amoureuse, l'idée hein, était de partir donc du nord de l'Inde, de Delhi, et puis par la route d'aller jusqu'au Népal, et du Népal ensuite par la route aller jusqu'au Tibet. Nous avons été confrontés à un vrai problème qui a été la mousson, tout de même, parce que ça a pénalisé considérablement les concerts de rue. Évidemment, on sortait le piano et puis dans les 5 minutes qui suivaient, on avait des averses très conséquentes et qui faisaient qu'on pouvait pratiquement rien faire. Ça, c'était très frustrant. Mais voilà, ça, c'est... Les caravaniers, pourtant, on sort le piano, c'est un effort et tout. Et toujours la joie, le sourire. Voilà. Mais on a quand même, malgré tout, réussi à jouer quand même dans des bidonvilles. On a pu jouer, rencontrer quelques réfugiés tibétains, des moines, des écoles. Donc, on a quand même pu faire des choses. Donc, l'itinéraire n'était pas facile. Et puis, bien sûr, par la route, aller jusqu'au Tibet, ça a été quelque chose. Hein. Et ces heures interminables de bus qui ont pénalisé aussi les possibles rencontres qu'on aurait pu faire. Mais bon, dans l'ensemble, je reste satisfait. Ça a été un voyage unique, incroyable, et qui nous a permis, je crois, tout de même de sentir la réalité des choses, l'oppression du peuple tibétain, ce nouvel ordre mondial dont on parle beaucoup, pour moi, il est tout à fait institué en Chine, voilà, dans cette région du monde. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout un peuple qui est écrasé, qui est esclavagisé, utilisé, et ceux qui ont résisté ont été massacrés. Et le reste, il est surveillé, il y a des caméras partout. Voilà, c'est ce nouvel ordre mondial qui semble être une fiction assez proche. Voilà, en tout cas, là, pour moi, elle est réalisée et j'en étais très choqué. Moi, l'objectif de cette caravane, c'est que la clé, elle est dans le fait de nous amener à avoir conscience, voilà, de la préciosité de l'autre, de chaque autre.
Tu donnes des conférences aussi, je crois. Hein. Tu interviens sur différentes thématiques. Tu t'exprimes sur quel sujet ?
Dans mes conférences, je m'exprime sur ce premier sujet qui est l'amour et la valeur de l'autre. Voilà, ça, c'est clair. On a eu tellement de films dont la propagande a été de dire que l'autre n'avait pas de valeur, ou quelques dollars, quand on voit ce film avec Clint Eastwood, ce qui, je crois, c'est pour quelques dollars de plus, ou pour une poignée de dollars. Et à la fin du film, il arrive avec une charrette dans laquelle il y a des corps d'hommes qui ont été tués. Et là, il compte les corps et il fait 12 000, 15 000, 22 000 dollars, 24 000. Et puis, il y a un gars derrière lui qui va le descendre. Et puis, Clint se retourne et il le tue. Et là, il dit, le compte est bon, 29 000 dollars. Voilà. C'est ça, ce que ça vaut un homme, quelques milliers de dollars. Et c'est terrifiant. Le film le dit, voilà. Et il y a eu d'autres films, la série Hors la loi, voilà, la tête mise à prix. Un homme, ça n'a pas de valeur. Et c'est des décennies et des décennies de films. On nous... Ouais, c'est de la propagande. On nous apprend ça. Et on nous apprend tellement que ça n'a pas de valeur qu'on peut, du coup en faire ce qu'on veut de l'homme. On nous met des images, voilà, où l'humanité, finalement, c'est pas grand-chose. Ça nous amène à valider quelque part inconsciemment cette réalité. Quand le début du film Terminator commence avec Schwarzenegger, avec ce tank qui roule sur des montagnes de crânes, voilà, et où l'idée d'une troisième guerre mondiale qui va exterminer, tout ça sont des images qui nous amènent à accepter l'inacceptable, voilà, à valider finalement un futur qui est juste intolérable. Tout ça, c'est de la manipulation. Voilà, mes conférences, c'est de dire ça, c'est d'aborder tout ce thème. Et du coup, finalement, pour parler de la valeur, de notre valeur incommensurable, c'est de nous réconcilier avec ce que nous sommes. Et pour commencer, finalement, je vais parler donc de l'être imparfait que je suis par nature. Et l'imperfection n'est pas coupable. Voilà, et ça a été toute la manipulation scolaire. Voilà, où finalement, à l'école, déjà, on nous a appris à nous sentir coupables parce qu'on était maladroit, parce qu'on manquait de discernement, parce qu'on était à côté. Et donc, chaque fois, on avait zéro, et avec des appréciations terribles, et des condamnations, et des, voilà, cette pénalisation effroyable qui fait que le gamin, il ne peut pas s'aimer. Et voilà, toute cette compétition, voilà, qui est soi-disant une saine émulation, c'est pas vrai. C'est de la guerre déguisée, c'est qui nous amène à nous méfier de l'autre, du voisin qui peut être meilleur, plus fort, donc qui peut prendre la place. Donc c'est tout ça, une guerre qui nous amène à finalement nous méfier de l'autre. Voilà, l'autre est un danger. Voilà, il faut se méfier. James Bond, il faut se méfier. James Bond, il faut se méfier des jolies femmes. Tous ces films sont là que pour nous amener à devenir complètement paranoïaque. C'est terrifiant, mais c'est vraiment terrifiant.
Un autre concept dont on n'a pas parlé, la fausse note, l'éloge de la fausse note. Est-ce que tu peux me définir ton concept ?
Mais voilà, ce concept de l'éloge de la fausse note, il est juste fondamental. C'est que finalement, on se rend compte que toute cette manipulation qui a été là et qui est encore là, qui nous amène finalement à nous désaimer, la fausse note, mais nous sommes tous des fausses notes, par nature. La plupart, combien d'enfants, d'ailleurs, dès la naissance, qui n'ont pas été voulus, désirés, dont je fais partie. Mais voilà, combien de naissances, d'enfants qui sont arrivés, pas attendus, pas prévus, trop tôt ou trop tard, ou enfin bref. Ça, c'est l'histoire du monde. Et on se rend compte que voilà, la fausse note, c'est ça. Moi, combien de gens m'ont dit « je suis une fausse note ambulante ». Et des gens maladroits qui ont fait des erreurs, qui ont été à côté dans leur vie, qui ont blessé. Combien, moi, quand je pose la question dans une salle, combien on fait de fausses notes dans la main, levez la main. Et là, je vois tout le monde. Alors parfois, il y a une main qui ne se lève pas. Alors, j'interpelle la personne et dit « Vous parlez français ?» Non, puis alors tout le monde rigole. Et en fait, c'est une personne qui ne lève pas la main parce que... Pour rigoler, en fait, effectivement, on a tous été maladroits. Et voilà, et moi le premier, dans ma jeunesse, évidemment, moi qui ai tellement cherché l'amour, je l'ai cherché parfois un peu n'importe comment, sans discernement, excessivement, et maladroitement, c'est évident. Et voilà, et donc voilà, des erreurs, on en a tous commis, et c'est normal. C'est normal. Et donc, tout mon travail, c'est d'amener les gens à se réconcilier avec ce passé qui, parfois, peut être sulfureux. C'est dans la nature humaine, voilà. C'est notre nature humaine que de nous tromper, voilà, de ne pas toujours mesurer, et c'est de pacifier ça. C'est de se rendre compte que c'est même magnifique, que c'est, voilà, c'est l'histoire des hommes, on se frotte, on se bouscule, et c'est la vie. Voilà, et c'est aussi apprendre. Tout mon travail aujourd'hui, c'est d'amener les gens à être en gratitude avec ça. Voilà. Je crois mon travail avec moi, à l'âge de 47 ans, il y a 10 ans de ça donc, j'ai un séisme vraiment dans ma vie, c'est produit. C'est que je marche dans ma rue d'enfance, et là je croise le père de mon meilleur ami d'enfance, qui avait deux sœurs, et avec lesquelles je suis sorti, voilà, quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et je suis sorti avec la première sœur qui avait 15 ans, et puis quelques années plus tard, avec l'autre sœur qui avait aussi 15 ans. Et leur père, quand je le croise donc, des années plus tard, 20 ans plus tard, un peu plus que ça même, me voit et m'en veut, et m'agresse littéralement. Il me dit que j'avais vraiment blessé une de ses filles. Pour moi, ça a été... D'abord, je ne m'y attendais pas du tout, parce que sa fille était venue me voir chez moi. On habitait à quelques maisons. C'est elle qui est venue. On a passé une après-midi merveilleuse à s'aimer. Voilà, j'étais son premier garçon et ça a été une après-midi géniale. Voilà, tout en douceur, pleine d'amour. Je ne pouvais pas m'imaginer que, voilà, c'est une chose que j'avais vécue de manière identique parfois, voilà, à l'époque avec d'autres amoureuses que j'ai pu avoir. Quand j'ai appris que ça l'avait blessé, que ça avait été pour elle un vrai problème, moi, ça a été un traumatisme. Waouh, j'ai dit, mais comment moi, quelque chose de similaire qui m'avait sauvé la vie, comment elle, ça avait pu, au contraire, bah, quelque part, la marquer au fer rouge. En fait, ça l'avait traumatisé. J'ai mis des mois et des mois à m'en remettre, et puis j'ai commencé à travailler beaucoup sur tout ça, à me poser des questions sur le sens de la maladresse, de la fausse note. Et c'est comme ça que j'ai écrit Éloge de la fausse note. Il a fallu que je puisse, moi, trouver du sens sur, je dirais, ma propre fausse note, la rendre supportable, et puis l'amener à l'harmonie. Dire, mais bon, comment me dégager de ça? Parce que cette culpabilité, c'était une vraie souffrance. Puis je me rendais compte qu'il n'y avait aucun moyen de... Parce que le père, j'ai proposé de rencontrer sa fille, c'était donc des années plus tard. Là, à l'époque, elle avait 35 ans. Mais ils ne voulaient pas, et puis même si tout ça maintenant était... Parce que bon, ils m'ont pardonné, tout ça, en parlant, tout ça, ça c'était réglé. Mais j'avais tout de même envie de le régler, cette affaire, de pouvoir... Et je me rendais compte qu'en France, il n'y avait aucune structure. La seule chose qu'il y avait, c'était la condamnation, c'est tout. Mais il n'y avait pas de structure d'aide, de comment on pourrait dire... Et là, je me rendais compte qu'il y avait un manque. Et il y a toujours. Là, le pardon et la bienveillance n'est pas quelque chose qui est dans les institutions aujourd'hui. Et c'est un manque. C'est un vrai drame. Et donc, dans mes conférences, j'aborde beaucoup ce thème, voilà, cette nécessité aujourd'hui de... les femmes et les hommes qui ont pu être maladroits sur le plan des relations amoureuses ne l'ont pas fait sciemment. Je crois qu'il faut vraiment faire attention dans ces discours, parfois, que les médias colportent, où très vite, un adulte va être taxé de pervers ou de pédophile ou d'obsédé. Et je ne crois pas. Je crois que ces hommes et ces femmes qui ont parfois manqué de discernement, parfois n'ont pas su tout simplement mesurer. Ou alors, il y a un contexte familial ou environnemental qui parfois a dramatisé les choses pour les rendre véritablement problématiques.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.